Salut Eric, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même.
Oui, je vais revenir, si tu me permets, sur le tournoi de golf du Canadien qui avait lieu lundi. On ne s'est pas reparlé depuis ce temps-là, puis je sais que tu as travaillé pour l'organisation du Canadien. Tu sais à quel point c'est une organisation qui fait bien les choses. Moi-même, comme participant, je veux quand même le préciser aux auditeurs et non comme représentant des médias, j'ai été une fois au tournoi de golf du Canadien, puis j'ai vu l'ampleur de l'événement. Ça lance en quelque sorte le camp d'entraînement. Après ça, il va y avoir les matchs en concours qui vont commencer lundi. Le camp d'entraînement, de toute façon, s'est amorcé aujourd'hui à Montréal. Dis-moi, quand tu as écouté Marc Bergevin et Jeff Molson, qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu trouves que Molson a une confiance, je dirais pas aveugle, là, parce que je pense que Jeff Molson dirige bien son entreprise hockey, mais est-ce que tu trouves qu'il est trop patient avec Marc Bergevin?
Sans être trop patient, je pense que, ben d'un, on voit qu'il y a une très, très grande complicité.
Oui, hein?
Ça, c'est okay. Évident. Là. Ouais. Je pense que c'est plus juste, j'ai l'impression que c'est plus juste une relation d'affaires. Je pense qu'ils ont développé des liens où ils sont très près l'un de l'autre. Je pense que ça reste quand même une business hockey où autant Marc Bergevin que Jeff Molson sont au courant que si jamais les résultats étaient catastrophiques, je suis convaincu que c'est la pression populaire de l'externe qui va faire en sorte qu'il y aura une décision de prix dans ce sens-là.
Cet hiver? Dès cet hiver, Éric?
Ah, il faut qu'il... Il ne pourra pas avoir une mauvaise saison cet hiver. Là.
OK.
C'est passé proche, ça pourrait être correct si tu ramasses encore au-dessus de 90 points. Mais si la grogne, exemple, s'installait rapidement avant les fêtes parce qu'ils sont exclus, ou si s'ils manquaient de profondeur, s'ils se font accuser de manquer de profondeur, s'il y a des blessés, là, les gens n'auront pas de pardon. J'ai l'impression que les journalistes n'auront pas de pardon, qui fait que ça va faire l'effet boule de neige, où là, la pression serait très, très dure. Moi, je pense qu'ils n'ont pas perdu le lien de confiance. Je pense que Jeff Molson a accepté le plan de Marc Bergevin. Mais à Montréal,
le deuxième plan, Éric, il faut le souligner, le deuxième plan de Marc Bergevin.
Oui, oui, oui. Ça, je pensais, je te trouve poli, ben je penserais même que c'est le troisième.
Non. OK, troisième.
Si l'équipe avait une saison catastrophique,
ouais.
Mais là, la grogne serait bien trop forte. Là. Ce serait insoutenable à Montréal, dans un gros marché comme Montréal. Tu vois, on en voit déjà là, que ça commence à graffiner. Stéphane Richer fait des commentaires. Ça tient, ça parle pas d'hockey, mais c'est. Tu vois que les journalistes vont s'alimenter et que la population va s'alimenter de choses négatives si ça se replace pas. C'est que ça va être. La ligne est très, très mince cette année. Là. Malgré une bonne saison, on pourra pas dire, mais on a passé proche et on a ramassé 95 points. Quatre fois en cinq ans sans faire les séries, là, c'est épouvantable pour une organisation. C'est que moi, je pense que oui, ils sont très proches. Mais si ça fonctionne pas, leurs liens seront pas assez forts pour sauver pour contrer la grogne qui va arriver de l'externe.
Puis l'autre chose, quand je regarde leur formation, puis surtout leur masse salariale, tu sais, on se moque de Carl Osner, mais c'est pas de Carl Osner de qui il faut se moquer, c'est de Marc Bergevin ou de la personne qui a conseillé de le signer 5 ans à 4,6 millions. Ultimement, c'est lui qui doit payer pas payer le prix, je veux dire, faut pas qu'il soit congédié pour avoir embauché Carl Osner. C'est pas ça que je dis, mais Carl Osner fait mal aux Canadiens actuellement, puis on a décidé de pas le racheter, parfait, mais il joue pas avec le Canadien, il gagne 4,6 millions cet hiver et les deux hivers suivants. Pendant ce temps-là, la défensive, Eric, c'est Weber, Mété, Petrie, Chiarot, qui arrive de Winnipeg, Jolson, Kulak, puis Riley et Follin comme remplaçants pour débuter la saison. Comme groupe de défenseurs, on peut parler peut-être des 5-6 pires équipes de la Ligue. Là.
Je te répondrais qu'Osner fait mal. Tu sais, quand ils l'ont signé, Osner, il n'y a personne qui était aussi catastrophique qu'on l'est présentement parce qu'on a vu qu'il pouvait suivre la... Il y avait bien de ses défauts qui étaient camouflés à Washington, qu'on n'avait pas connaissance parce que c'est un club qui comptait des buts. À partir du moment où Canadien, et là, je pense que ça démontre, ça fait en sorte que Marc Bergevin est encore plus frileux sur le marché des agents libres parce qu'il y a eu une mauvaise expérience dans ce dossier-là, mais pour moi, le problème, il n'est pas Carl Osner qui coûte trop cher à 4,4 millions. Le problème, à mon avis, c'est qu'il reste encore 5 millions sur la masse salariale, puis l'an passé, il en restait 8, puis on les utilise pas. C'est que c'est pas tellement Carl Osner mon problème, à mon avis, pour moi, dans mon évaluation.
Okay.
C'est le fait qu'on va pas en chercher d'autres. Ça me dérange, puis ça fait en sorte que la défensive, Des grosses lacunes, comme tu viens de le mentionner, puis ça fait en sorte que c'est pas une des bonnes défensives dans la Ligue. Puis pourtant, on a un des meilleurs défenseurs de la Ligue dans cette équipe-là. Parce qu'il y en a, les deux, trois premiers sont corrects, c'est qu'on y trouve pas de joueurs assez établis pour venir se greffer à ce groupe-là. Parce que dans la Ligue, présentement, c'est un bon Big Four, là. C'est un bon premier groupe de quatre. Tu peux faire le travail parce qu'ils vont jouer contre les deux premiers trios de l'autre équipe. Jouer contre le troisième trio puis le quatrième trio des autres équipes, tu peux jouer avec des défenseurs plus moyens. Le problème du Canadien, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre s'il y a des blessés. Mais il faut trouver une façon que l'argent qui reste soit utilisé pour amener des joueurs et non pour faire économiser aux Canadiens. Là, le 8 millions qu'on n'a pas utilisé l'an passé, Dan, ben, ça donne quoi, ça, ce 8 millions-là? Tu peux même pas dire je le réinvestis l'année d'après.
Non.
C'est pas, tu l'augmentes pas ton année suivante.
Non,
ça.
Non.
Mais quand tu vois qu'un club manque les séries par un point, puis qu'il dormait 8 millions sur la masse salariale, mais 8 millions, ça aurait peut-être été un attaquant à 3-4 millions qui t'aurait donné une coupe de buts de plus sur le power play, puis qui aurait fait en sorte que tu les aurais faites, les séries. C'est Carl Snow pour moi, là. Au moins Bergevin là-dessus, je me dis, il avait pris une chance. Il l'a essayé, ça n'a pas marché. Tu peux pas toujours avoir raison, tu peux pas te tromper. Mais dans le contexte actuel, surtout d'une organisation comme le Canadien, qui est assez riche, merci, puis qui est une des équipes qui va très bien financièrement dans la Ligue, tu peux pas laisser dormir de l'argent. Ça fait 2 ans qu'on va pas au plafond. On a l'air d'un club, on n'est pas au plancher, mais on va pas au plafond. Mais quand tu es proche d'y aller, à moins d'avoir pris un virage jeunesse, puis tu dis go, on le sait qu'on ne gagnera pas, puis on ne fera pas d'argent dans les séries parce qu'on ne les fera pas, mais on développe nos jeunes, mais c'est pas le cas.
Non.
On continue à essayer. C'est que moi, c'est un peu de la frime quand on nous dit le virage jeunesse. Là. S'il y avait un vrai virage jeunesse, là, on bougerait Price puis Weber.
Exact.
Puis Petrie, on les bougerait. C'est que ça, c'est un beau discours pour acheter la sympathie du monde. Mais au bout de la ligne, ça va prendre des victoires, puis ça prend des séries cette année. On n'a pas le choix, là.
Puis tu dis, il reste de l'argent, Dan. Admettons qu'on va lui donner le bénéfice du doute à Marc Bergevin. Admettons qu'il a essayé bien, bien fort, puis les gars ne voulaient pas venir. Hier, Simon Gagné, dans mon émission, a dit, c'est pas compliqué, Dan. Lâche-moi l'impôt, lâche-moi les tempêtes de neige, puis arrête de me parler des médias de Montréal qui sont omniprésents partout. Le problème, c'est que l'équipe n'est pas compétitive sur la glace. Le jour où ils vont être bons, les joueurs vont venir. T'es-tu d'accord?
Tout à fait d'accord. 100% d'accord avec ce qu'il vient de mentionner là. C'est très clair. Puis de toute façon, oui, il y a une chose à Montréal. Puis ça, on va le reconnaître. Ça va coûter un peu plus cher l'amener à Montréal à cause de l'impôt. C'est très clair, là. Il n'y a aucun doute qu'à cause de l'impôt, ça coûte plus cher. Mais sachant ça, le 8 millions ne peut pas dormir dans un coffre puis pas s'en servir, là. Parce que le 8 millions versus le 1 million, le 1 point qui t'a manqué.
Oui. Il fait mal.
Ça fait très, très mal. Ça fait mal du point.
OK. Charles Hudon a joué 32 matchs l'année dernière. Le camp d'entraînement s'est amorcé ce matin. Et évidemment, Pelling et Suzuki sont mes deux points d'intérêt à moi. Peut-être que l'auditeur à l'écoute en a d'autres. Peut-être qu'il a hâte de voir Kincaid comme deuxième gardien. Il y a des jeunes qui arrivent au camp d'entraînement. Mais Charles Hudon, 32 matchs. Moi, Éric, j'ai de la misère à m'expliquer. Parce que à 32 matchs puis le traitement qu'on lui a fait, là, c'est clair que Bergevin puis Julien, ils l'aiment pas. J'espère qu'on le garde pas juste à Montréal parce qu'il est Québécois. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi on lui a donné un autre contrat.
Parce qu'il est Québécois, d'après moi. Moi, c'est mon opinion dans le sens que c'est sûr qu'il n'est pas d'implant. On n'aurait pas signé Nate Thompson, on n'aurait pas Will, on n'aurait pas Delouis, on n'aurait pas tous ces gars-là. On n'aurait pas été chercher Cousin si on était sûr que Charles Hudon pouvait faire l'équipe. Moi, je pense que Charles Hudon, ils se disent le camp d'entraînement va arriver, puis il peut-tu faire partie d'un échange? Je pense pas, parce qu'il aurait déjà passé. Il a passé par les waivers, mais c'est sûr qu'on a déjà parlé dans les années passées. S'il s'appelait Mike Thompson, Charles Hudon, on n'en parlerait même pas, puis on serait pas offusqué qu'il n'ait pas joué l'an passé. Là. On l'aime parce qu'on l'adore, puis c'est un Québécois, puis on veut qu'il réussisse. S'il n'a pas joué l'an passé, là, c'est pas parce qu'il a perdu 12 livres cette année qu'il va être plus vu par le coach puis le gérant. Là. Moi, je pense que on aime le jeune, on lui a donné un autre contrat et on lui a donné un contrat qui fera pas mal pour qu'un club veuille le prendre non plus, ses agents libres. Mais je pense, malheureusement, je pense que c'est terminé le Canadien, là, à moins qu'il connaisse un camp de fou, mais on va-tu lui donner la chance de le faire? Je pense qu'il y a trop de jeunes qui s'en viennent, puis ils ont trop signé de joueurs de profondeur de quatrième trio, que malheureusement, je vois pas comment Charles Hudon pourrait percer l'alignement. J'y souhaite, mais j'y crois pas vraiment.
OK. Éric, dernier sujet sur lequel je veux m'arrêter avec toi ce soir, c'est les entraîneurs. Tu es un entraîneur de profession, tu as coaché toute ta vie. Bruce Cassidy à Boston, il fait toute une job. Puis c'est drôle parce que, oui, Claude Julien a été bon avant lui, mais à un moment donné, à la fin, là, Chiarelli puis Cam Neely, je vais te dire de quoi, pour les avoir vus d'un ascenseur après une série Canadien-Bruins, là, je vais te dire de quoi, ils s'entendaient pas sur le coach. Cam Neely voulait le mettre dehors, ça faisait longtemps, puis Chiarelli protégeait Claude Julien. C'est Bruce Cassidy qui s'est amené. Il fait une bonne job, on lui a donné une prolongation de contrat hier, parfait, numéro un, c'est amplement mérité. C'est le genre d'entraîneur au hockey, je parle pour moi, j'aurais le goût de jouer pour lui. Et je veux savoir, toi qui es coach, des fois, tu regardes-tu un match de hockey à télé ou un match de foot ou un match de basket, peu importe le sport. Des fois, tu te dis-tu, voyons, c'est quoi, comment il agit ce coach-là? Il n'y a pas un joueur qui va vouloir jouer pour lui. Ça, je ne veux pas que tu me donnes des noms, évidemment, ce soir-là, mais est-ce que ça t'arrive des fois de voir un entraîneur dire, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, à l'inverse, je te dis, Bruce Cassidy, moi, je jouerais pour lui. Je me défoncerais pour lui. Tu vas me dire, Dan, tu t'es jamais défoncé tout le long que tu as joué au hockey mineur. Je comprends, mais là, peut-être que je pourrais faire un effort pour Cassidy, OK? Au football, je vais te donner un autre exemple, Eric. Au football, Mike Tomlin, l'entraîneur des Steelers. C'est un gars qui a l'air dur, mais c'est un gars qui a l'air smart. Il a l'air gentil. Ça, c'est le genre d'entraîneur pour qui je me défoncerais.
Regarde souvent, puis Cassidy, c'est deux bons exemples que tu viens de donner. Lis beaucoup les commentaires. Il se passe beaucoup de choses entre les lignes dans le journal, puis entre les lignes dans les commentaires des gars à radio ou à la TV. Quand tu peux percevoir chez les joueurs comment ça se passe avec un coach, puis tu as raison de dire que Cassidy, quand tu lis les commentaires des joueurs, c'est un gars qui a l'air très respecté, parce que c'est un gars qui a l'air, oui, il a l'air dur. Moi, je pense qu'il est dur,
oui.
Mais c'est un gars qui a l'air juste. C'est un gars qui a l'air fair. Puis tu vois que les gars, quand tu entends rarement un joueur qui part passer un commentaire négatif sur le coach, tu réalises que dans la chambre, il est apprécié.
Okay.
C'est que c'est pas juste de dire un gars lance des fleurs. Non. Quand les gars quittent, puis tu les entends pas se plaindre contre le coach, c'est que très souvent, il y a une question de respect. Puis dans le coaching aujourd'hui, le mot le plus important, c'est le respect. Quand tu es capable de te faire respecter par les athlètes parce que tu les respectes, mais au bout de la ligne, c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Et les athlètes veulent jouer pour ce type de patron-là. C'est que ça, c'est majeur. Puis je pense que Cassidy en est un bon exemple.
T'as bien raison. Gros merci, Éric.
C'est moi qui te remercie, Dan.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi, dans l'avant-match.